Celui qui nous aime d'un amour indescriptible, incommensurable, inconditionnel, un amour désintéressé, celui-là est présent au milieu de nous. Et croyez-moi, ses bras sont tendus en direction de chacun de nous. Il n'y a personne ce matin au milieu de nous, personne parmi tous ceux qui nous suivent, que ce soit la radio Parole Éternelle ou qui nous suivent sur différentes chaînes de télévision, il n'y a personne qui puisse être indigne de l'amour du Père. Dieu nous a attirés dans ces lieux ce matin parce qu'il nous aime. Et dans son amour, il aimerait que ce matin nous puissions nous lever comme la personne dont il va être question dans notre prédication pour aller vers lui, le rencontrer et expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Gloire au Seigneur. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes dans la prière. Nous allons demander à Dieu de nous parler ce matin, de nous faire du bien par sa parole. De tout cœur, Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce temps que nous venons, Seigneur, de passer en ta présence, à te louer, à t'adorer. Ce temps, ô Dieu, qui nous a permis de nous approcher avec confiance, avec assurance de toi, pour, Seigneur, te présenter l'expression de nos cœurs, pour proclamer qui tu es, mais aussi, Seigneur, pour te présenter nos différents besoins, nos différentes attentes par rapport à toi. Seigneur, merci d'avoir été attentif à ce moment, à tout ce temps que nous venons de passer en ta présence. Seigneur, toutes ces prières qui sont montées vers toi ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Au contraire, tu les as accueillies favorablement, puisque Seigneur, tu nous aimes. Puisque tu nous aimes, nous pouvons alors, une fois de plus, nous attendre, Seigneur, à de grandes choses de ta part, alors que ta parole sera prêchée, proclamée par ton serviteur. Puisque tu nous aimes, Seigneur, nous pouvons aujourd'hui, alors que nous sommes là devant toi, expérimenter, Seigneur, une bénédiction particulière dans tel ou tel autre domaine de notre vie. Car avec toi, Seigneur, rien n'est impossible. Aucune parole, Seigneur, sortie de ta bouche ne peut rester impuissante. Tout ce qui sort de ta bouche et qui est reçu avec foi dans le cœur finit toujours par produire, Seigneur, du fruit et du fruit glorieux. Parle-nous, fais-nous du bien, débarrasse-nous de tout préjugé, de tout a priori, qui pourrait, Seigneur, nous obnubiler au risque de nous empêcher, au point de nous empêcher de recevoir humblement, simplement, ta parole. Bénis-la, cette parole dans nos cœurs. Bénis ton serviteur qui va, Seigneur, la proclamer à ton peuple. Bénis ton peuple, ce troupeau que tu aimes, pour lequel tu as donné ta vie, ta propre vie, à la croix de Golgotha. Ce troupeau pour lequel, Seigneur, tu as un plan merveilleux, un plan glorieux. Oui, par amour pour ton peuple que nous sommes, fais-nous du bien par ta présence au travers de ta parole. Merci Jésus. Toute la gloire te revienne. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je voudrais revenir une fois de plus sur le concept de la foi biblique, revenir une fois de plus sur cette réalité ô combien fondamentale, ô combien essentielle à notre vie. Car sans la foi, mes amis, eh bien, nous ne pouvons pas aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Sans la foi, il est donc impossible de plaire à celui qui a donné sa vie à Golgotha pour chacun de nous. Sans la foi, il est impossible de nous approprier des promesses qu'il a mise à notre disposition. C'est donc la foi qui fait toute la différence. Alléluia. On peut être là ce matin, entendre la même parole, mais c'est la foi qui fera la différence. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi j'estime qu'il est encore important que nous puissions nous attarder une fois de plus sur cette réalité biblique qu'est la foi. Car in fine, ce dont nous avons besoin, eh bien, c'est de la foi et de la foi seule. Tout ce que Dieu fait parmi nous, tout ce que Dieu accomplit pour nous, toutes ces paroles qu'il nous donne au travers de toutes sortes de prédications, tous ces enseignements que nous recevons de lui, ont pour objectif ultime, mes amis, de susciter en nous la foi, afin que cette foi nous amène vers lui, nous amène à sa rencontre. Alléluia. C'est donc la foi, et la foi seule, qui rend possible la rencontre avec le Seigneur. Et lorsque nous arrivons à le rencontrer, croyez-moi, quel que soit notre problème, quel que soit notre statut social, quel que soit notre besoin, lorsque nous arrivons à le rencontrer, mes amis, par la foi et au travers d'une foi profonde, il se passe toujours quelque chose. La foi rend possible la rencontre avec Jésus. Je crois que si nous voulons être sincères, eh bien, chacun de nous est venu pour rencontrer le Seigneur, oui ou non? Moi, en tout cas, ce n'est pas parce que je prêche que je n'aurai pas besoin de ce message. J'ai été le premier à en bénéficier de ces bienfaits, donc des bienfaits de ce message. Je viens pour rencontrer le Seigneur. Je viens pour entrer dans une interaction réelle avec lui. Je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, pour si pas pour chacun de nous qui sommes là aujourd'hui. La foi rend possible la rencontre avec le Seigneur. Et pour pouvoir nous permettre de comprendre une fois de plus l'importance de la foi, eh bien la place qu'elle est appelée à occuper dans notre relation avec le Seigneur, nous allons nous tourner vers un récit de la parole de Dieu. Un récit qui nous montre combien Jésus est capable de changer le statut d'un homme, de prendre quelqu'un qui était au troisième sous-sol de la misère. C'est fort, hein? Oui, il y en a qui sont au rez-de-chaussée de la misère. Ça va encore, hein? Mais celui-là, il était au troisième sous-sol. Mais malgré la profondeur de sa détresse, malgré cette marginalité corsée dans laquelle cet homme se trouvait, lorsqu'il rencontre Jésus, tout change. Du tout au tout. Cet homme n'est autre que Bartimée. Alléluia. Bartimée, dont la vie va nous servir de modèle aujourd'hui. Nous allons essayer d'aller à la rencontre de cet homme et voir comment cet homme est sorti de sa misère, de sa détresse, de sa situation terrible. Comment il a changé de statut? Comment il a expérimenté le miracle de guérison? Nous sommes dans Marc chapitre 10, nous allons lire les versets 46, 47, 48, 49, 51, 50, 51, 52, qui est même la fin du passage et la fin du chapitre. 46 à 52, nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches ou le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabouni !» lui dit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà un récit plein de pittoresque, un récit plein de vie, un récit qui nous montre une fois de plus, mes amis, que quel que soit notre désespoir, quelle que soit notre misère, notre détresse, Quel que soit notre besoin, qu'il soit d'ordre physique, qu'il soit d'ordre matériel, qu'il soit d'ordre spirituel ou autre, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, eh bien, avec Jésus, tout peut changer. Et tout finit par changer. C'est donc l'histoire de cet homme. Un homme dont la Bible nous donne beaucoup de détails, ce qui est rare. Ce qui est rare dans le Nouveau Testament et notamment dans les Évangiles. Jésus a accompli beaucoup de miracles, de guérisons. Et par rapport aux guérisons, il est très rare que la Bible mentionne le nom de la personne qui bénéficie le miracle des guérisons. Dans la plupart des cas, Jésus guérit. Dans la plupart des cas, on lui amène quelqu'un. On nous dit simplement que la personne était malade, malade depuis de nombreuses années. Dans la plupart des cas, on raconte l'histoire d'une femme, on ne nous donne pas tous les détails. Ou alors, lorsqu'on nous en donne, c'est simplement pour souligner son origine païenne, comme cette femme d'origine syro-phénicienne, qui était partie vers le Seigneur pour aller implorer sa grâce. Mais par rapport à ce mendiant aveugle, eh bien, l'auteur, l'évangéliste Marc, trouve un certain plaisir de nous donner autant de détails. Peut-être qu'après avoir fait l'objet d'une visitation particulière de la part du Seigneur, peut-être qu'après avoir reçu la guérison, puisqu'après il a été débarrassé de sa cécité, cet homme, après avoir pris la résolution de suivre Jésus, a fini peut-être par être connu par beaucoup de disciples, d'où ce qui aurait amené l'évangéliste à mentionner son nom. Peu importe. Sinon qu'il est question d'un homme, un homme aveugle, Bartimée. Un homme qui n'a aucun avenir, puisque sa vie ressemble à un objet qu'on prend chaque matin et qu'on va déposer le long du chemin, le chemin poussiéreux. À l'époque, il n'y avait pas de macadam. Hein? À l'époque, il n'y avait pas de routes asphaltées. Ce qui fait que lorsque vous vous mettiez le long d'une chaussée, d'une voie, le long d'un chemin, eh bien, tu recevais toute la poussière, poussière soulevée par des va-et-vient des gens. Bartimée, qui là, dans sa misère, dans sa détresse, dans sa marginalité, puisqu'il est au bord du chemin, va voir son destin basculer et changer du tout au tout. Alléluia. C'est un homme dans la détresse, mais à la fin de ce récit, c'est un homme réhabilité, complètement restauré, qui retrouve sa dignité et qui se met à suivre Jésus, qui rejoint ce cortège à la tête duquel se trouvait le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Lui le marginal, lui le laissé pour compte, lui dont la vie n'avait aucun sens, voyez-vous, lui considéré par certains comme un parasite, par d'autres comme un homme maudit, car n'oubliez pas qu'il y avait à cette époque en Israël une croyance selon laquelle la cécité ou l'aveuglement était un signe de malédiction. Un homme, donc, qui quelque part était là comme un vieux chiffon, une vieille éponge de cuisine, dont on n'en a plus besoin, on dépose là, de temps à autre on en a besoin, etc., mais dont le destin va changer, dont le destin va basculer. Qu'est-ce qui va être à la base? Qu'est-ce qui va provoquer, mes amis, ce changement des statuts? J'insiste beaucoup, car dans la plupart des cas, quand on médite ce passage, eh bien, on se concentre davantage sur le miracle de guérison, sur le fait qu'il a été débarrassé de sa cécité. C'est vrai. Mais le Seigneur va aller plus loin. Et c'est ce que nous verrons. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui a occasionné ce changement? Qu'est-ce qui a fait que cet homme, eh bien, sorte du troisième sous-sol où il était pour être quelqu'un dans l'entourage du Seigneur et se mettre à le suivre? Eh bien, nous l'avons lu, cet homme a rencontré le Seigneur. Et de cette rencontre, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Cet homme a été conduit par la foi. Cette foi l'a amené à aller jusqu'à Jésus pour lui présenter son besoin. Et Jésus va opérer un miracle. Et cet homme va voir. Ce qui a fait arrêter Jésus, mes amis, ce n'est pas parce que cet homme avait une très belle voix. Une voix, eh bien, qui avait fini par charmer le Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des voix extraordinaires. Hein? Vous savez ça? J'ai suivi un documentaire sur un homme, un clochard, ou un SDF. Un homme qui avait tout perdu, il n'avait plus rien. Vous voyez? Mais qui avait un organe qui finira par le sauver, par le réhabiliter dans la société. Cet organe, c'était sa voix. Il se mettait au carrefour, c'est aux États-Unis que l'histoire se passe, avec une petite pancarte sur laquelle il était écrit « J'ai été autrefois animateur de radio, j'ai une voix en or ». Alors tous ceux qui s'arrêtaient au carrefour, puisqu'il y avait un feu tricolore, le feu de circulation, eh bien, lisaient forcément ce qu'il y avait sur ce bout de carton que ce clochard, ce SDF tenait. J'ai une voix en or, j'ai fait ceci, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, vous savez, il y a ce qu'on appelle la bienveillance générale du Seigneur. Un homme s'est arrêté, c'était un journaliste. Quand il a vu ça, il s'est intéressé, il dit, mais il prétend avoir une voix en or. On va voir. Vous savez, il a pris cet homme, il a écouté, il a amené, cet homme a fait un casting, il a parlé, tout le monde a été séduit, il a trouvé une place dans une grande station de radio. Il a commencé à passer dans des émissions de télévision où on ne voit pas la personne qui parle, même dans des publicités. Tout cela à partir de... Mais ce qui a fait arrêter Jésus, ce n'est pas tant le fait que Bartimée avait une voix en or, une voix qui pouvait rugir comme le bruit d'une chute, ou que sais-je. Ce qui a fait arrêter Jésus, c'est la foi qui était derrière cette voix. Alléluia. Il a crié, après avoir entendu que Jésus était de passage, qu'il sortait de Jéricho. Oui, Jéricho. Autrefois ville maudite par Josué. Jéricho, qui après avoir été détruite, va faire l'objet d'une tentative de reconstruction. Mais Jéricho qui sera reconstruite beaucoup plus tard, plusieurs siècles plus tard, par Hérode le Grand. C'est de cette Jéricho, appelée aussi la ville des palmiers, c'est de cette Jéricho dont il est question, Jéricho dans laquelle Jésus est entré, Jéricho de laquelle Jésus sort. Il n'est pas seul, il est entouré de ses disciples, mais aussi d'une foule. La foule le suit, les disciples le suivent. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus est en route vers Jérusalem pour aller prendre part à la fête de Pâques. Et ça sera sa dernière Pâque, car c'est durant cette Pâque eh bien, qu'il va être jugé, injustement, arrêté à Gethsémané. C'est durant cette Pâque qu'il va être crucifié, qu'il va donc donner sa vie pour le salut de l'humanité. C'était donc la dernière fois qu'il passait par Jéricho. Oh, c'est comme si la grâce de Dieu était présente et avait inspiré cet homme, Bartimée, en l'amenant à croire que c'est aujourd'hui ou jamais. C'est ainsi qu'il a crié. Certes, il n'avait pas Dieu pour voir, mais il avait des poumons pour crier, des poumons d'acier. Alléluia. Il s'est mis à crier très fort, et les gens autour de lui le rabrouaient, le reprochaient, en lui disant, oui, lui reprochaient de crier trop fort, mais tu nous casses les oreilles, mais monsieur, tais-toi, ça sert à rien, tu ne vois pas qu'il est en route vers Jérusalem. Mais rien à faire, cet homme ne s'est pas laissé distraire, ni intimider par son entourage. Il était décidé à aller à contre-courant. Alléluia. Ceux qui vont loin dans leur marche avec Dieu, ceux qui finissent par recevoir quelque chose de la part de Dieu, sont des gens déterminés à aller jusqu'au bout, quel que soit l'environnement, quelle que soit, eh bien, la réaction des uns ou des autres. Ce sont des gens audacieux. Ils n'ont qu'un objectif, aller rencontrer Jésus là où il est. Peu importe que cela plaise ou non aux gens, l'essentiel, c'est que je rencontre lui. Car lorsque je le rencontrerai, lorsque je le toucherai, lorsque je serai en contact avec lui, je suis convaincu que ma misère, ma pauvreté, tout ce que je suis, changera. Alléluia. Quelle foi. Quelle leçon cet homme a à nous donner dans le domaine de la foi. Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Voyons très rapidement. Le cheminement de cet homme, Bartimée, comment il est arrivé jusqu'à changer de statut après avoir expérimenté la guérison, cette guérison qui l'avait amené à crier de tous ses poumons, dirais-je. D'abord, il n'a pas rêvé que Jésus était le Messie. Car le titre de fils de David, c'était un des titres que le Juif donnait au Messie, puisque le Messie, d'après les prophètes, devait descendre dans la lignée de David, le roi. Il n'a pas rêvé, mais il avait entendu des choses au sujet de Jésus, alléluia. Il avait entendu des choses concernant la personne du Christ, que c'était lui le Messie, que c'était lui, nous sommes presque... Le Seigneur a déjà presque 3 ans de ministère, voyez-vous, parce qu'après, comme je vous ai dit, ce sera sa dernière Pâque, et il va donner sa vie. Donc il était déjà connu, donc les gens parlaient de plus en plus de qui il était, voyez-vous. Mais également, il avait entendu des choses concernant ses miracles, tout ce qu'il accomplissait. Au simple toucher, les paralytiques marchaient. Au simple toucher, certains aveugles voyaient. Par un ordre verbal, les morts ressuscitaient. Il avait entendu beaucoup de choses sur les miracles, mais il avait aussi entendu des paroles concernant son enseignement. Tout ce que Jésus disait concernant le royaume des cieux. Toutes ces perles du royaume des cieux que le Seigneur distribuait à ses auditeurs. Tout cela avait fini, mes amis, par arriver dans le cœur de cet homme Bartimée, cet homme condamné à passer le reste de sa vie sur le bord du chemin, un chemin poussiéreux, condamné, mes amis, à passer le reste de sa vie en menant une vie de parasitage, puisqu'il dépendait totalement et entièrement de la société, de la générosité des uns, de la compassion des autres. Bartimée, après avoir entendu tout cela, a donc acquis cette conviction que Jésus était le Messie attendu par Israël. Alléluia. Qu'il était donc celui qui devait venir. Donc, les miracles, les faits concernant Jésus, l'enseignement de Jésus, les paroles de Jésus ont fini donc par susciter en lui la foi, et c'est cette foi qui va l'amener, mes amis, à aller chercher la bénédiction, à savoir la guérison, être débarrassé de sa cécité et par conséquent changer de statut. La parole. Luc 6 ou 7, je crois, nous rapporte l'histoire de la résurrection d'un enfant qui était fils unique d'une veuve, la veuve de Naïn, une ville pas loin de Nazareth. Cet enfant est mort. Évidemment, pour la maman, c'est la catastrophe. Elle avait déjà perdu son mari. Elle comptait beaucoup sur son garçon. Et vous savez, dans une société où il n'y avait pas de sécurité sociale, eh ben, on l'a trouvé dans la postérité. Plus on en avait, plus les enfants pouvaient prendre soin des parents. Et voilà que cet enfant meurt. C'est la catastrophe. Cette maman est inconsolable. Le jour de l'enterrement, les gens de sa ville sont venus pour l'accompagner. Et voilà, en sortant de Naïn, eh bien, Jésus passe par là. Il rencontre ce cortège funèbre. Voyez-vous? Et Jésus, nous dit la Bible, eut compassion en voyant cette veuve pleurant, en voyant l'affliction, la souffrance dans le cœur de cette femme. Jésus eut compassion. Il s'arrêta et il toucha le cercueil. Tout le monde s'arrêta. Mes amis, c'est la rencontre entre celui qui est la vie avec la mort. La mort a frappé. Il va y avoir une rencontre de puissance. D'un côté, la puissance de résurrection du Maître. De l'autre côté, la puissance mortifère, funeste, des ténèbres. Qui va remporter? Eh bien, dans ce domaine-là, dans cette lutte-là, l'issue est connue d'avance. Quand Jésus entre dans la danse, on connaît l'issue. Eh bien, c'est la vie qui va l'emporter. Il va réveiller, il va ressusciter cet homme, cet enfant, il va le remettre à sa maman. C'est la joie. Tout le monde nous dit, la Bible glorifie Dieu en disant, un grand prophète est venu, ou s'est levé parmi nous, et c'est formidable, etc. Et Luc ajoute un détail. Luc dit, et cette parole se répandit partout. Jésus a fait un miracle, et Luc parle de la parole. C'est parce que dans le concept juif, je reviendrai peut-être dans la conception juive, la parole c'est plus que des mots. La parole est dynamique, la parole est créatrice, alléluia. Elle est à la base, elle suscite les événements, et ces événements deviennent eux-mêmes la parole. C'est ainsi que Paul, parlant de l'œuvre de la croix, va dire la parole de la croix, pour parler de l'événement de la croix, alléluia. Donc tout cela va susciter la foi dans cet homme. Et c'est donc cette foi qui va amener Bartimée à crier, à aller vers le Messie pour recevoir la guérison. Pendant qu'il crie, les gens le découragent. Oui ou non? Pendant qu'il crie, les gens cherchent à le faire taire, les gens le rabrouent. Mais tais-toi, ils lui font des reproches, tu nous casses les oreilles, pourquoi tu dois crier comme un malade? Mais Bartimée était un homme déterminé. Bartimée était un homme qui n'avait qu'un objectif, que son cri soit entendu par Jésus. Mon frère, ceux qui vont loin avec le Seigneur, ceux qui reçoivent de bénédictions de la part du Seigneur, ce sont des gens déterminés, que rien ne peut arrêter dans leur recherche de Dieu. Qu'on les traite de fanatiques, qu'on les traite d'illuminés, rien à faire. Comme disent nos amis arabes, le chien aboie, mais la caravane passe. Décidé, aller jusqu'au bout. Quelle persévérance, voyez-vous. Il n'y a pas que la confiance qui amène cet homme à crier. Il n'y a pas que le discernement donné par la foi qui lui permet de se dire, c'est Jésus de Nazareth. Ce peut être aujourd'hui, et puis jamais. Si je rate cette occasion, il n'y a rien qui me prouve. Je n'ai aucune assurance qu'il pourra repasser par là. Oh Bartimée, tu avais bien vu, c'était ce jour-là, pas un autre jour. Et crois-moi mon frère et ma sœur, pour toi aussi qui es là, pour toi qui nous suis à la radio ou à la télé, c'est peut-être aujourd'hui ton jour. Ne dis pas demain. Jésus est là, il est en train de passer dans les rangs. Là où tu es, tu peux te mettre à crier en disant, Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Et je suis convaincu qu'il y en a qui vont recevoir quelque chose. Alléluia. Car au travers de cette rencontre, Dieu est en train de tendre la main à certaines personnes. Alors mon frère, ne te laisse pas distraire par celui ou par celle qui est à ta droite. Ne dis pas, oui, mais il va remarquer que j'ai un problème. Ce n'est pas ton problème, tu as un problème. Dites-moi un peu, qui n'a pas de problème sur cette terre? Il n'y a que les morts qui n'ont plus de problème. Ah oui, le fait déjà d'être en vie est un problème qu'il faut résoudre. Oui ou non? Alors, parce qu'il y en a qui hésitent. Quand on fait l'appel, ils regardent à gauche. Ma femme peut soupçonner. Non. Oui, ma femme peut se faire des idées, etc. Où mon mari est là. Non, ne regarde pas celui à ta gauche ou à ta droite. Le diable, mes amis, est très subtil. Il arrive à nous distraire. Ça peut être une réflexion légitime, mais dans ce domaine-là, la réflexion n'a plus sa place. C'est une démarche par la foi. Il est là et je dois le saisir. Il est là, je dois crier jusqu'à ce qu'il m'entende. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Timée a crié. Voyez-vous, c'était pour lui une occasion de sa vie, malgré les empêchements autour de lui, malgré les gens pour les décourager. Il y en aura toujours. Voyez, il y en aura toujours. Dans chaque choix fait pour le Seigneur, croyez-moi, il y aura toujours une réaction de la part des hommes, même des hommes spirituels. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour te dire, réfléchis quand même. Tu trouves vraiment que c'est sage? Oui. Oui, il peut avoir raison. Il est limité. Il peut être sincère. C'est bien. Mais c'est nous qui sommes concernés. Chaque décision, même pour s'engager dans le mariage, dans la plupart des cas, on rencontre, surtout parmi les enfants de Dieu, il y a toujours une tante, 100% ceci, qui ne va pas apprécier que tu épouses une sœur de la borne. Oh, binzam, binzam. Comme ils ont l'habitude de dire. C'est terrible, hein? Combien de jeunes gens ont été arrêtés dans leur élan pour le Seigneur parce que la famille, à un certain moment, a mis la pression. Mon frère, ma sœur, c'est une question de vie ou de mort. C'est aujourd'hui ou jamais. Alléluia. C'est aujourd'hui. Bartimée a été confronté au découragement. Bartimée a été intimidé. On l'a rabroué. Bartimée, mes amis, se retrouvait face à des gens qui ne l'ont pas aidé dans un premier temps. Voyez-vous? Non. Il a fallu que le Seigneur entende sa voix, une voix portée par la foi, pour qu'il dise, appelez-le. Oh, alléluia. Allez le chercher là où il est. Et c'est ainsi que les gens iront. Bartimée a persévéré dans sa volonté de rencontrer le Seigneur. Car il savait que de cette rencontre, quelque chose devait absolument se passer. Il avait entendu qu'il était impossible de le toucher et de repartir avec sa maladie. Il était impossible de le toucher et de ne pas recevoir quelque chose. Oh mes amis, nous avons un sauveur merveilleux. Nous avons un Dieu extraordinaire. Ne vous laissez pas décourager par votre environnement familial. Ne vous laissez pas décourager par vos amis, quels qu'ils soient. Nous autres ici, lorsqu'il a fallu laisser le travail pour nous lancer dans le ministère, eh bien, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah, c'est une aventure, voyez-vous. Est-ce que tu ne peux pas servir le Seigneur tout en ayant un travail à côté? Mais oui, je le servais déjà, parce que quand on m'a consacré ici, par le pasteur Verneau, ben, je travaillais déjà. Nous étions avec les autres diacres, j'avais été consacré comme prédicateur ici. Je me souviens, j'étais quelque part, j'ai encore revu la photo il n'y a pas longtemps, mais je travaillais. Mais le moment était arrivé de quitter la barque, alléluia, et d'aller rejoindre le Seigneur là où il m'appelait. Même dans le mariage, il y aura toujours quelqu'un qui dira, mais attention, réfléchis, est-ce qu'elle te convient cette femme? Est-ce que ce jeune homme là, regarde comment il marche? C'est comme ça? Mais toi quand même, bien sûr, vous priez, mais regarde sa tête. Oui, mais...
Excusez-moi.
Oui, mais aujourd'hui, tu as l'impression que cette tête ressemble à celle d'un colibri. C'est peut-être parce qu'il est au troisième sous-sol. Le jour, le Seigneur va le faire sortir. Même au loin, tu verras son crâne briller. Alléluia. C'est pourquoi ne méprisez personne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nos épouses ont pris beaucoup de risques pour nous accepter. Ouais. Eh oui, c'est vrai. Ouais. Beaucoup d'entre nous, si nos épouses devraient regarder au standard du monde, beaucoup d'entre nous seraient encore célibataires. Non, nous sommes tous beaux. Alléluia. Oui, tu es beau, mon ami. Évidemment, tu n'as pas rasé la barbe, ce n'est pas ça le problème. Tu es belle. Tu es belle. Ah, les filles là-bas sont belles, parce qu'elles ont toutes répondu. Gloire au Seigneur. Donc, il a persévéré. Il est allé à contre-courant de ce que la majorité voulait lui dicter. Voyez, dans notre marche avec le Seigneur, nous aurons à prendre souvent des décisions impopulaires. Des décisions qui ne feront pas, qui ne rencontreront pas l'assentiment de tout le monde. Vous voyez? Des décisions en face desquelles les gens auront toujours quelque chose à redire. Ah oui, mais, si nous nous laissons décourager, eh bien Jésus passera. C'est peut-être l'unique fois où il veut nous accorder quelque chose de particulier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bartimée a fait preuve de persévérance, d'audace. Il est allé jusqu'à Jésus. Et quand il arrive à Jésus, le Seigneur lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je recouvre la vue? Alléluia. Il a été clair. Hein? Il n'a pas dit, il n'a pas tourné en rond. Ce qui l'avait amené à crier, d'abord et avant tout, c'était le problème d'aveuglement, sa cécité. Car son statut social était la conséquence évidente du fait d'être aveugle. Sa mendicité était la conséquence de son état d'aveugle. Car en tant qu'aveugle, eh bien, il ne pouvait pas travailler, mes amis. Dans une société à l'époque, évidemment, où le travail demandait beaucoup d'efforts physiques, etc., eh bien, les aveugles étaient marginalisés. Donc, il ne pouvait rien faire. Il a demandé cela. Rabouni. Il commence par Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Mais quand il se retrouve en face du Seigneur, et ceci nous montre qu'il y avait déjà eu un travail en amont concernant la messianité du Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la personne du Christ. Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Eh bien, quand il arrive, il ne dit pas « fils de David ». Il appelle, il recourt à cette expression « Rabouni, mon maître ». Cette expression beaucoup plus solennelle, évidemment c'est de l'araméen, beaucoup plus solennelle que « Rabbi ». Vous voyez, « mon maître ». Plus solennelle, plus respectueuse, qui montre quelque part une relation qui est née entre d'un côté cet aveugle mendiant et de l'autre côté le Seigneur de gloire. Homme dans la détresse, comme je l'ai dit, une détresse particulièrement corsée. Aveugle, il est assis au bord poussiéreux du chemin en train de mendier. Quel exemple de marginalité, comme je l'ai dit. Quel exemple de gens qui sont ceux qu'on appelle les laissés pour compte. Bartimée est là, au bord de la route. Le cortège de Jésus passe et il va se lever. Il va aller vers le Seigneur et Jésus va lui accorder la bénédiction. Alléluia. Que lui dit le Seigneur? Ta foi t'a sauvé, guéri et puis il va se mettre à le suivre. Avec une foi qui croit en lui, celui le Messie. Fini avec toutes ces histoires, ces rites, ces cérémonies rabbiniques ou autres. Mais, vous l'avez peut-être remarqué, rien ne nous est dit sur la manière dont Jésus s'y est pris pour accomplir ce miracle, oui ou non? Rien. On ne nous dit pas quel geste il a fait pour accorder la vision, la vue plutôt, à l'aveugle. On ne nous dit pas, on ne nous rapporte pas la parole qu'il a donnée, comme pour les autres cas, ou dans d'autres situations, mais on nous dit simplement que Jésus lui dit, va, tu es guéri, ta foi t'a. Quel geste, quelle parole le Seigneur a-t-il utilisé pour que Bartimée recouvre la vue? Rien ne nous est dit à propos de tout cela. C'est quand même étrange. Car lorsque nous regardons, toujours dans Marc, eh bien, par rapport à l'aveugle de Bethsaïda, on nous dit qu'on lui amène un aveugle, on amène un aveugle à Jésus, et on le supplie de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Que fait-il? Il lui met la salive sur les yeux, n'est-ce pas? Et puis il lui demande, vois-tu quelque chose? Il dit, oui, je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Ok. Jésus lui met de nouveau les mains sur les yeux. Et là, nous dit la Bible, l'aveugle voit clairement. Il voit nettement. Marc nous rapporte ce que Jésus a fait pour amener cet aveugle à voir. Alléluia. Il a appliqué donc la salive sur ses yeux. Gloire au Seigneur. Au paralytique, à plus d'une fois. La Bible nous dit, on lui amène un paralytique. Jésus regarde le paralytique et lui dit, voilà, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne s'élève. Au grabataire qui se trouvait au bord de cette piscine à Bethesda. Eh bien, c'est la même chose. Ça faisait de nombreuses années qu'il était malade. Il était là, sur son lit, sans qu'il y ait personne pour l'aider, etc. À chaque fois que l'eau était agitée par un ange, le Seigneur arrive. Eh bien, il lui demande, que veux-tu, etc. Lui pense que c'est peut-être un bienfaiteur qui viendrait pour le jeter dans la piscine. Et ensuite, le Seigneur va lui dire quoi? Allez, prends ton lit sur le champ, cet homme. Un peu partout, on nous rapporte ce que Jésus, les gestes que Jésus pose, la parole qu'il utilise pour chasser les démons. Il s'adresse aux démons, il intime des ordres aux démons, et la Bible nous dit, les démons obéissent et partent. N'est-ce pas? Donc, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, rien ne nous est rapporté quant au geste qu'il a fait, quant à la parole qu'il a utilisée. Pourquoi? Il doit y avoir une raison. Eh bien, la raison, nous la trouvons dans le récit même. Vous aurez remarqué, ça commence par un homme dont on nous donne une description. C'est un homme mendiant, un homme aveugle. Un homme comprenait qu'on allait déposer le long du chemin, au bord du chemin. Et il devait mendier. Donc, c'est un homme ayant un certain statut. Et puis voilà que Jésus passe par là. Cet homme rencontre Jésus, tout change. La Bible nous dit, non seulement il recouvre la vue, mais que fait-il? Il se met à... Celui qui était assis est condamné à rester assis le long du chemin, entendant simplement les uns et les autres passer, en disant, nous allons à Jérusalem, etc. Cet homme-là, quand il rencontre Jésus, ce n'est plus cet objet qu'on déposait comme une caisse de bois le long du chemin. Cette fois-ci, c'est un homme debout. Alléluia. C'est un homme qui voit, certes, mais c'est un homme debout, capable de marcher, capable de rejoindre le cortège que Jésus est en train de conduire vers Jérusalem. Il est réhabilité. Donc la guérison par rapport à sa cécité est importante. Mais au-delà de tout cela, il y a eu toute une restauration, toute une réhabilitation. Cet homme a changé de statut. Alléluia. C'est ainsi que, dans ce récit, ce qui est important, ce n'est pas la manière, les paroles que Jésus aurait utilisées, le geste. Ce qui est important pour Luc, plutôt Marc, eh bien, c'est ce qui se produit, ce qu'est devenu Bartimée. Peu importe ce que le Seigneur a utilisé comme geste, peu importe la parole qu'il lui a donnée, le résultat est là. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un homme réhabilité. Il n'est plus un objet qu'on prenait, qu'on mettait, et qui devait, avec son manteau, voyez, tendre la main pour vivre de la générosité, de la compassion des passants. Mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui s'élève, qui devient acteur de sa vie. Alléluia. Il n'est plus l'assisté éternel. Il n'est plus un objet qui était là, qui attendait de tout. Mais cette fois-ci, mes amis, le Seigneur le réhabilite. Le Seigneur le fait lever. Le Seigneur l'amène à voir et puis ensuite lui donne la capacité d'être actif, d'être dynamique et de rejoindre le cortège en route vers Jérusalem. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une des raisons qui ont amené Marc à attirer l'attention non pas sur les gestes, la parole ou autre moyen que le Seigneur aurait utilisé, mais plutôt nous attirer l'attention sur Bartimée. Bartimée passe, pour terminer, d'un statut d'objet, d'un statut d'assisté permanent, n'est-ce pas? Puisqu'il dépend entièrement de la compassion, de la générosité, de l'amour de Jean, il passe de ce statut-là d'homme qu'on déposait comme une caisse, comme un tas de vêtements de friperie le long de la route, à l'état d'un homme qui retrouve sa dignité. Alléluia. Oui, on peut être aveugle, mais faire partie de la noblesse, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? On peut être aveugle, mais vivre à la cour du roi parce qu'on est le fils du roi. Ce qui n'était pas son cas. Donc il est réhabilité, il change de statut. Il devient un homme capable de se mettre debout, capable de suivre Jésus sur le chemin, de devenir disciple, bref, de devenir acteur de sa vie. Voilà ce que le Seigneur voudrait faire pour certains d'entre nous aujourd'hui. Il veut changer ton statut. Tu en souffres. Tu es constamment assisté. Tu en as jusque-là. Tu pleures, Seigneur, jusqu'à quand? Moi aussi, vais-je avoir un emploi pour pouvoir me payer une maison, pour pouvoir fonder une famille? Jusqu'à quand resterai-je au bord de la route, mendiant, attendant que les gens me donnent quelque chose? Aujourd'hui, ouvre bien les yeux. Aujourd'hui, ouvre bien ton cœur. Jésus est là. Il est en train de passer. C'est aujourd'hui ou jamais que tu peux crier à lui, alléluia. Bartimée a retrouvé sa dignité. Bartimée a jeté son manteau. Et pour un aveugle, le manteau, c'était son seul bien. Voyez-vous, le bien du pauvre, le manteau, très long. Ce manteau pouvait l'utiliser pour faire face au froid. Il pouvait utiliser ce manteau pour se couvrir la tête lorsqu'il faisait très chaud, n'est-ce pas? Ce manteau était pour tout pour lui, mais ce manteau le gardait. Lorsque Jésus nous appelle, eh bien, pourrait constituer une entrave. Comment courir lorsqu'on a un long vêtement comme un manteau? Dites-moi, pourriez-vous courir comme il faut? Pas du tout. Ce manteau, malgré tout ce qu'il représentait pour lui, Jésus a dit, viens, eh bien c'est fini. C'est fini. Manteau reste, il m'a demandé d'aller, c'est fini. Certains, peut-être, auraient pu lui dire, sois sage, tiens-le quand même. On ne sait jamais, dans vos histoires ici, tu arrives là-bas, et puis tu apprends que ce n'est pas Jésus qui t'a appelé. Hein? Ce manteau que tu jettes là, quelqu'un d'autre va le prendre. Ah oui, c'est dans une société où rien ne se perdait. Hein? Oui ou non? Ouais. Donc il aurait pu garder, on ne sait jamais. Je peux arriver là-bas, ben, je vois seulement d'un œil. Comme ça. Hein? Non, il a dit, viens. Son appel a eu un écho en moi. Alléluia. Eh bien, aujourd'hui, j'enlève, fini. Je pars. Alléluia. Eh bien, croyez-moi, aujourd'hui, le Seigneur voudrait donner l'occasion à certains d'entre nous qui sommes là de réagir comme Bartimée, de se lever. Il y a peut-être des choses qui pourraient constituer une entrave à l'appel que le Seigneur t'adresse ce matin. C'est à toi de les identifier et de s'en débarrasser. Certains veulent crier à Jésus. Si tel est ton cas, et je suis convaincu qu'il y en a qui aimeraient crier à Jésus dans leur profonde détresse, dans leurs besoins qui s'éternisent, dans cette situation où vous avez l'impression que ce n'est pas pour aujourd'hui, que la situation pourrait se démonter. Oui, avec lui, tout est possible. Alors, si tu aimerais crier ce matin à Jésus, je te prie simplement de te lever. Lève-toi avec la foi. Entends cette voix que Jésus t'adresse, comme il l'avait adressée à Bartimée. Viens, il t'appelle. Je ne suis qu'un outil entre ses mains qui te dit oui, il t'appelle. Tu es aimé de la même manière manière qu'il a aimé Bartimée. C'est Jésus qui n'a pas changé. C'est toi qui peux ou n'est pas changé. Mais c'est aujourd'hui. Alors, que tous ceux qui se sont levés lèvent leurs mains et se mettent à crier à Jésus. Fais comprendre ton besoin à Jésus. Il est là devant toi. Il n'est pas à des années-lumière d'ici. Pas du tout, mes amis. Il est là. Parle-lui. Et la question qu'il te pose, que veux-tu que je te fasse? Ne dis pas bénis-moi, mais il va te bénir en faisant quoi? Mais identifie ton besoin. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'un emploi. Seigneur, j'ai besoin de mariage, de trouver l'âme sœur. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin de promotion. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Oh, alléluia. Prions tous ensemble. Invoquons le nom de Jésus. Jésus est là. Crions de tout notre cœur. Utilisons nos poumons pour crier à lui. Mais que ça soit fait par la foi. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci. Merci, maître. Toi qui as changé le sort, la destinée de Bartimée, toi qui as changé son statut social, d'assisté permanent, tu lui as fait, Seigneur, découvrir, tu lui as fait retrouver sa dignité. Tu es encore le même aujourd'hui. Entends le cri des cœurs. Entends le cri des cœurs. Donne la guérison au corps malade. Ouvre les portes qui sont restées fermées. Dans le nom de Jésus, donne l'assurance. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Oh, le Dieu de Bartimée, tu es encore aujourd'hui le même. Oh, merci. Oh, merci. Merci. Mon frère et ma sœur, toi qui as répondu à l'appel lancé, sache que c'est Jésus à qui tu as adressé ta prière, à qui tu as crié, c'est Jésus-là, il est là devant toi. Il est là. Il n'est pas sur une planète à des années-lumière d'ici, pas du tout. Il est là devant toi. Comme avec Bartimée, eh bien, il te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Je vais prier maintenant pour que chacun saisisse par la foi comme pour Bartimée. Et pendant que je prie, saisis mon frère. Dis, Jésus, tu es là. Je ne te lâcherai point tant que je n'ai pas reçu ce que tu as pour moi. Alléluia. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de celui qui a changé le destin de Bartimée, celui qui l'a délivré de son statut de mendiant, son statut de marginal, dans le nom de celui qui lui a donné la vue, dans le nom de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui a donné sa vie à la croix pour toi, en son nom, je te prie de saisir, mon frère et ma sœur, par la foi, ce que tu lui as demandé. Dans le nom de Jésus, saisis ta grâce. Oh, alléluia. Oh, gloire. Oh, gloire. Oh, gloire. Saisis ta guérison. Saisis ta restauration. Saisis l'emploi. Saisis ton emploi. Alléluia. Saisis ta promotion. Oh, gloire. Tu as trop attendu cette porte. Sache que lui l'a ouverte. Pars après le culte avec cette assurance que quelque chose s'est passé. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il a ouvert la porte. Vois cette porte maintenant ouverte. Et demain, quand tu pars, pars avec la louange dans la bouche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jusque-là, tu l'as cherché. Tu voyais comme cet aveugle qui, dans un premier temps, voyait de manière floue. Maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est elle. Maintenant, c'est lui. Que les choses soient claires. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Merci, maître. Nous bénissons ton nom. Seigneur, pour avoir entendu tous ces cris qui sont sortis des cœurs et montés vers toi, comme pour Bartimée, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Alors donne-nous de rester dans cette attitude de reconnaissance. Pour certains, Seigneur, ils ne voient pas encore, mais la foi, Seigneur, voit l'invisible. Que tu donnes à tous ceux qui ont demandé quelque chose de repartir avec l'assurance que tu leur as donné la chose. Seigneur, jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir cela de manière concrète. Merci pour ta parole. Bénis ce moment consacré aux offrandes. Bénis ces paniers qui vont circuler. Seigneur, merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir soutenir ton œuvre avec nos dons, nos offrandes, nos dîmes. Quelle grâce d'être partenaire avec toi, Seigneur, dans l'annonce et dans la proclamation de ton royaume. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.